Alors, Monsieur le Conseil national, Mesdames, Messieurs, chers amis, le mouvement chrétien conservateur valaisan a le privilège d'accueillir ce soir comme conférencier Maître Éric Delproix, avocat à la Cour de Paris, qui nous parlera de la décadence du droit, de la partialité du juge et du viol des consciences. Maître Éric Delcroix, depuis toujours, s'engage résolument en faveur des victimes des régimes totalitaires, à l'Est comme à l'Ouest. Au temps du régime soviétique, il n'a pas craint de se rendre en Russie, sous le temps de Brejnev, pour soutenir les opposants à ce régime de terreur, et est aussi intervenu en Yougoslavie, au temps de la dictature communiste, en faveur de l'écrivain Mikhailov et de l'avocat Maître Popovitch. Il continue ce combat en France, où il a notamment défendu François Brignot, l'un des plus grands écrivains français de notre temps. Celui-ci, dans un de ses cahiers intitulé « Le racisme judiciaire », évoque la personnalité de Maître Delcroix, qui a eu le cran de défendre François Brignot dans un procès qu'il opposait notamment à Anne Sinclair, célèbre et influente journaliste, de plus épouse du considérable et médiatique Dominique Strauss-Kahn. L'illustre avocat Vergès, approché par François Brignot, s'était désisté, effrayé par la perspective de croiser le fer avec un personnage aussi influent. Et Maître Delcroix, sans état d'âme, accepta de relayer le défaillant Maître Vergès et François Brignot écrit à propos de Maître Delcroix. Depuis 9 ans bientôt, j'ai appris à mieux apprécier encore son intelligence, son travail, sa droiture, sa pugnacité. Depuis les années 90, la plupart des pays européens, et notamment la France et la Suisse, font peser sur leurs justiciables une chape de plomb qui étouffe la liberté d'expression au moyen de lois dites antiracistes, et les tribunaux les appliquent servilement sans la moindre indulgence. Les condamnations au prétendu racisme aux contestations de l'histoire officielle ne se comptent plus. Ce régime, digne des États totalitaires et qui a cours dans des États dits démocratiques, a fini par susciter l'émotion des historiens français et le 12 décembre 2005, 19 d'entre eux, la plupart de gauche, dans une pétition « Liberté pour l'histoire » ont exigé l'abolition des dispositions législatives qui étouffent la liberté d'expression, en particulier la fameuse loi Guesso, qui interdit de traiter librement des événements survenus pendant la dernière guerre mondiale. De même, Hélène Carrère-Dancos, de l'Académie française, lors d'un séjour en Russie, s'est exprimée auprès d'une chaîne de télévision russe pour dire son indignation en constatant que en France, on ne pouvait parler de la composition des groupes ethniques ou de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sans encourir les foudres judiciaires. En Suisse aussi, certains semblent se réveiller. Il y a quelques semaines, notre conseiller fédéral, Christophe Blocher, lors d'un séjour en Turquie, n'a pas craint de dire que notre norme antiraciste, qui est encore plus sévère que la loi française, lui faisait mal au ventre. Ce fut un tollé dans le milieu politique et parmi les médias, et même le conseiller fédéral Pascal Couchepin n'a pas craint de dire son indignation. Ces tentatives d'intimidation n'ont pas dissuadé l'UDC, qui paraît déterminé à supprimer cette législation qui paralyse toute volonté de défendre notre souveraineté et l'indépendance nationale en jetant l'opprobre sur ceux qui entendent lutter contre l'immigration-invasion et en culpabilisant notre peuple par la diffusion d'une histoire officielle telle le rapport Bergier. Le thème de la conférence de ce soir est donc particulièrement actuel et je remercie Maître Delcroix d'être venu de Paris jusqu'à nous pour nous faire son exposé. Je lui cède la parole.
Comme on vient de vous le dire, depuis très longtemps, j'ai eu l'occasion de défendre les personnes qui étaient poursuivies en raison de leurs opinions. Alors les personnes qui étaient poursuivies, spécialement en France, quelquefois à l'extérieur, comme on vous l'a dit, mais en raison de leurs opinions, ont été de plus en plus nombreuses. Et puis, à cette occasion, j'ai observé que la chose se passait pas seulement en France, bien entendu, mais dans toute l'Europe, et plus généralement dans tous les pays qui appartiennent au Conseil de l'Europe. Et qu'il y avait une volonté générale, organisée, d'interdire certaines opinions. Alors ce soir, l'objet de ma conférence, c'est pas tellement la question de la liberté d'opinion, qui peut faire l'objet d'une autre conférence et être développée ailleurs, mais à l'occasion de cette défense des gens qui avaient des opinions dissidentes. Puisque maintenant, comme en URSS autrefois, où je l'ai connu, ça existe en Occident, en Europe, chez nous, chez vous, chez moi. À cette occasion, je me suis aperçu que les législations dites antiracistes ne s'attaquaient pas simplement aux opinions qui étaient exprimées en public, mais également, ce qui est beaucoup plus grave, à la conscience de tout un chacun. Jusqu'ici, dans les pays civilisés, de ce qu'on appelle en Europe continentale le droit romano-germanique, c'est ce que vous connaissez, c'est ce qu'on connaît dans tous les pays du Conseil de l'Europe, pratiquement dans toute l'Europe continentale, c'est ce que nous connaissons en France. Nous nous étions installés dans un droit qui protégeait les libertés et surtout qui protégeait la liberté de conscience de chacun. Je veux dire par là que la société profane, laïque, comme on dit en France, chez vous comme chez nous, s'interdisait d'interpeller le sujet de droit, de vous interpeller, vous ou moi, à l'occasion d'un procès quelconque, sur notre conscience, sur nos arrière-pensées. Or, les choses ont beaucoup changé. Et précisément, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous interpelle de plus en plus sur notre conscience, sur le tréfonds de notre âme, pourrait-on dire. Et les gens, en général, ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a cette espèce de chape de plomb moralisatrice qui apporte une autre morale et qui prétend d'ailleurs que c'est la seule. Alors comment les choses se passent-elles? En quelques mots, techniquement. Techniquement, ça a commencé par le droit pénal. Le droit pénal, où on a dit, mais il faut réprimer le racisme. Les bonnes intentions, vous savez, pavent l'enfer. Alors on s'est dit, il faut réprimer certaines choses qui ne sont pas acceptables. Alors, il faut savoir qu'en droit pénal, une infraction est composée de trois éléments. Je le dis en vitesse pour les non-juristes. Une infraction, un délit, un crime est composé pour le juriste de trois éléments. Vous avez l'élément matériel, c'est l'acte interdit, le meurtre ou le vol. Matériellement, c'est facile à définir. C'est pas facile à prouver toujours dans tel ou tel cas, mais c'est facile à définir en soi. Et puis, vous avez l'élément légal. L'élément légal, est-ce qu'il y a une loi qui réprime le vol, qui réprime le meurtre? Oui, donc on peut réprimer. Mais il y a une autre chose qui est le troisième élément et qu'on appelle souvent l'élément moral ou le dol. C'est l'intention de celui qui commet le délit ou le crime. Bien entendu, pour que vous puissiez être puni dans un crime ou un délit, encore faut-il, en dehors de l'élément matériel et de l'élément légal, que vous ayez consciemment transgressé la loi, commis l'acte, l'élément matériel prohibé. Mais jusqu'ici, jusqu'à ces dernières années, jusqu'à ces toutes dernières décennies, c'était d'un point de vue objectif que l'on considérait les choses. C'est-à-dire que l'élément moral, c'était l'intention objective. Or maintenant, je vais essayer de vous le montrer, on arrive à l'intention subjective et donc au viol de la conscience. L'intention objective, répond à la question suivante. Avez-vous voulu consciemment l'acte? Avez-vous voulu l'acte? Et si vous avez voulu l'acte, vous serez évidemment condamné. Sauf, bien sûr, c'est d'ailleurs une illustration, à contrario, si vous êtes en état de démence, auquel cas, vous n'avez pas la responsabilité de votre acte. Il n'y a plus d'élément moral, donc vous ne pouvez pas être condamné. Mais jusqu'ici, par conséquent, l'intention, l'élément moral était considéré d'une façon objective, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, en philosophie, le fort externe. Et maintenant, nous arrivons malheureusement au viol des consciences, c'est-à-dire au fort interne. Je m'explique. Donc, comme je vous le disais à l'instant, jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces dernières années, jusqu'avant l'arrivée, l'irruption de la morale antiraciste, la question pour savoir si vous étiez condamnable, votre intention, c'était donc, comme je vous le disais, l'intention objective, ce qui répond à la question « Avez-vous voulu l'acte ?» Je vous l'ai dit à l'instant. Pour Kant, c'est le Sollen, n'est-ce pas? Est-ce que consciemment, j'ai voulu avoir une conduite qui n'est pas celle autorisée par la loi? Maintenant, la question de plus en plus, et c'est le cœur de la question du viol de conscience, n'est plus « Avez-vous voulu cet acte ?» Mais pourquoi avez-vous voulu cet acte? Ça change totalement les choses. Ça change totalement les choses parce que des lois récentes en France, je ne sais pas si vous en avez déjà, ont fait, par exemple, récemment, de l'intention raciste un cas d'aggravation en matière pénale. Alors, je suis obligé un petit peu de faire un petit peu de droit là aussi. Il existe dans votre pays, comme dans les autres pays européens, pour un acte donné, des possibilités d'aggravation. Je dis au hasard, quelqu'un commet un vol, on va dire que ce vol, c'est 5 ans de prison, maximum, par exemple. Bien. Mais quelqu'un va commettre un vol en rentrant chez vous. Ce vol est plus grave, puisqu'on est rentré chez vous. C'est ce qu'on appelle en droit français un vol qualifié. Il est aggravé. Et ce vol, au lieu d'être puni de 5 ans, par exemple, va, par la sagesse du législateur, être puni, disons, de 10 ans de prison. Bien. Ça, ce sont des cas d'aggravation objective. Jusqu'à ces dernières années, nous ne connaissions que ces cas d'aggravation-là. Avez-vous voulu voler ce sac à main dans la maison où vous l'avez trouvé? Oui, dans ce cas-là. Maintenant, nous connaissons des cas d'aggravation subjectifs. Parce que si je frappe un homme, le délit jusqu'à présent, c'était de frapper. Aujourd'hui, ça n'est pas forcément de frapper. C'est par exemple, puisque je le frapperai par hypothèse, parce qu'il est noir. Mais je regrette. C'est l'acte qui devait jusqu'à présent être puni en conscience. Est-ce que vous avez voulu frapper cet homme? Vous l'avez frappé, c'est interdit. Maintenant, on va chercher à savoir si je l'ai frappé parce qu'il était noir. C'est-à-dire qu'on va chercher mes arrière-pensées, mes fantasmes, pour savoir si je suis, entre guillemets, raciste. Donc, on va procéder à une recherche du tréfonds de ma conscience pour voir s'il y a aggravation. Mais je vais plus loin. On en est arrivé à faire en sorte que certains actes qui objectivement ne sont pas des infractions, en raison de votre arrière-pensée, de votre mobile, de votre âme toute noire, vont devenir des infractions pour le juge. C'est terrifiant. Et ça peut arriver dans la vie quotidienne à tout un chacun. Je prends l'exemple français, mais vous transposerez chez vous, vous avez de plus en plus, malheureusement pour vous, des choses comparables. En droit français, depuis 1972, la première grande loi antiraciste dite Pleven, vous avez toujours le droit, en libre citoyen, de posséder un appartement. Merci. Vous avez toujours le droit de le louer. C'est vrai, si vous ne l'occupez pas, c'est peut-être bête d'avoir un appartement qui dort, alors que finalement, c'est un capital que vous pouvez exploiter honnêtement en le louant. Et vous allez, par conséquent, louer cet appartement à quelqu'un qui sera très content de se loger, d'ailleurs, et de vous payer un loyer. Il sera peut-être un peu moins content de payer un loyer, mais enfin, c'est régulier, c'est normal. Alors, on vous dit, vous êtes de libre citoyen. En Suisse, vous êtes de libre citoyen comme moi, je suis un libre citoyen en France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai. Je vais vous montrer en France en droit pénal et je pense partout maintenant en droit civil. Parce que si je décide de refuser un candidat parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est roux, parce qu'il vous déplaît, parce qu'il a une sale tête, parce que c'est un homme, et puis que les hommes sont toujours désagréables, enfin un petit peu, enfin pour moi, parce que donc on préférerait une femme, que sais-je. Vous allez faire un choix qui ne regarde que vous, dans un colloque singulier avec votre cœur, avec votre âme. Eh bien non, le juge maintenant va rechercher si l'acte que vous croyez encore être libre, a été fait avec une arrière-pensée pécamineuse, vous savez, avec un péché. Et par conséquent, on va chercher dans votre vie privée toutes sortes d'éléments pour essayer de montrer que l'acte était raciste. Alors c'est très grave parce que refuser en France, je parle là du droit pénal, refuser de louer un appartement en France pour un particulier, vous ou moi ou une société privée d'ailleurs, louer un appartement, enfin refuser de louer un appartement à quiconque, c'est votre droit. Et on vous dit, c'est votre droit arbitraire, les droits de l'homme et patati et patata. Eh bien moi, je vais vous dire non, ça n'est plus vrai, puisqu'on va chercher dans votre conscience si vous avez le droit d'être libre. Et en France, depuis 1972, si on s'aperçoit, y compris par ce qu'on appelle maintenant les testings, que l'arrière-pensée avec laquelle vous avez refusé tel ou tel candidat à l'allocation était discriminatoire, parce que raciste, maintenant, ça recouvre tout ce qu'on veut, était discriminatoire, eh bien, vous allez passer en correctionnel et vous risquez 2 ans de prison, plus des amendes qui vont vous permettre de vous ruiner, plus des dommages et intérêts pour des sociétés de vertu, des associations qui auront le droit de demander, comme Shylock, leur livre de chair. Voilà dans quel système nous vivons. Ça, c'est en droit pénal, mais je pense qu'en droit civil, ça fonctionne pratiquement partout maintenant en Europe. De la même façon, on pourra faire annuler le bail si on s'aperçoit que vous l'avez loué dans un but discriminatoire. Alors les gens disent « Ah oui, mais le racisme, c'est pas bien », et ils font pas attention à tout ça. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que ça signifie que d'ores et déjà, oh, les juges ne l'appliquent pas encore. Ils ne sont pas encore assez gauchistes, mais ça va venir. D'ores et déjà, les lois existantes qui vous interdisent la discrimination, eh bien, théoriquement, vous interdisent de louer en priorité à votre neveu, à votre cousin, à vos enfants, comme les lois existantes en Europe maintenant peuvent demain mener en correctionnel n'importe lequel d'entre vous qui a une entreprise et qui embauche en priorité son fils en se disant « il prendra ma succession ». Actuellement, il n'y a pas de cas. Ça viendra, car les lois le permettent d'ores et déjà, parce que les discriminations, ça veut dire que l'on va chercher au cœur de chacun d'entre vous si vous aviez une intention raciale, raciste. Mais le racisme, ça commence avec son fils, avec sa fille. Vous préférez votre fille ou votre fils, comme disait Jean-Marie Le Pen en France, à votre cousin. Mais tout ça est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. Je pense que pour vous, ça l'est aussi. C'est même sain. C'est même sain. Or, c'est interdit. C'est interdit. Il faut le savoir. Et ça le va être de plus en plus. L'embauche. Maintenant, nous avons des lois en France qui font qu'on n'est pas libre d'embaucher. Et n'importe quel employeur peut être interpellé par des organismes spécialisés pour justifier des raisons objectives pour lesquelles il a embauché cette personne blanche plutôt que cette personne noire, ou cette personne blonde plutôt que cette personne, que sais-je. C'est au point qu'en France, on a même fait l'inversion de la preuve. Ça n'est pas à celui qui allègue qu'il a été rejeté de l'embauche en raison de sa race, de son origine, de sa religion, de tout ce que vous voulez. Non, c'est à l'employeur de convaincre le juge. Alors ça signifie une chose tout à fait nouvelle, c'est que jusqu'à présent, effectivement, nous étions relativement libres. Aujourd'hui, on continue à nous le dire, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, parce que pourquoi est-ce qu'un particulier n'aurait pas le droit d'embaucher arbitrairement qui il veut ? Alors qu'aujourd'hui, un particulier doit justifier de l'intention non discriminatoire, une société privée doit justifier de son intention non discriminatoire en matière d'embauche. C'est-à-dire qu'elle est dépossédée, que vous êtes dépossédés, que nous sommes dépossédés de notre arbitraire intime qui nous permettait dans les actes de la vie privée, qui nous permettait dans les actes de la vie non publique, de ne pas justifier de nos choix. Quand vous avez un fonctionnaire, quand vous avez un juge, il est normal que l'on demande au fonctionnaire ou au juge pourquoi il a pris telle décision, et on leur demande à ces fonctionnaires et à ces juges de justifier d'un exposé des motifs. Et s'il y a un contentieux, une difficulté, le juge aura à s'expliquer auprès de ses pairs en fonction d'un exposé des motifs, et le fonctionnaire aura auprès de ses supérieurs et de la justice à s'expliquer en fonction d'un exposé des motifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas libres, ces gens-là. Ils n'ont pas le droit à l'arbitraire, puisqu'ils n'agissent pas au nom d'eux-mêmes. Ils agissent au nom de la souveraineté, au nom de l'entité générale, Confédération helvétique ou République française. Par conséquent, ces gens-là ne sont pas libres, et c'est normal qu'ils ne soient pas libres. Ils sont payés par nos impôts pour des fonctions publiques. Mais en revanche, une société privée ou un particulier qui possède un appartement ou qui veut embaucher un domestique, il était libre, il ne l'est plus. Et si on lui demande raison devant la justice, il va devoir composer un exposé des motifs pour essayer de convaincre le juge qu'il a agi de façon non discriminatoire. Et ça va très loin, parce que maintenant, toutes les discriminations y passent. Ah oui, mais vous avez refusé quelqu'un qui était borgne. Oui, mais c'était comme observateur. Oui, mais ça fait rien, vous n'avez pas le droit, vous tombez sous le coup de la loi. Mais ça devient terrifiant. Ça devient terrifiant. Puisque, en raison de la santé ou en raison des mœurs, vous n'avez plus le droit aujourd'hui. Vous n'avez plus le droit. Si vous êtes responsable d'un pensionnat de petits garçons, de refuser un homosexuel, eh bien oui, vous n'avez pas le droit de faire de discrimination à raison, comme on dit en France, en mauvais français d'ailleurs, puisqu'on devrait dire en raison, à raison des mœurs. Pardonnez-moi, on peut même envisager qu'on soit condamné parce qu'on est responsable d'un cimetière et qu'on ne veut pas d'un nécrophile. Enfin, c'est insensé. Et nous n'avons plus aucune liberté. Et tout ce système tolère cependant une discrimination, parce qu'on ne peut pas faire fonctionner une société sans discrimination. Et il tolère une seule discrimination, c'est celle par l'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les trotskistes, par exemple, les marxistes purs et durs survivants de la chute du rêve soviétique, c'est pour ça qu'ils sont en faveur de ce système, comme les grands spéculateurs américains. Parce que ce qui les intéresse, les grands spéculateurs américains, c'est uniquement l'argent qu'ils feront. Il n'y a pas de couleur, même si c'est fabriqué en Chine, ça n'a pas d'importance. Et les trotskistes, ils se disent, puisque la logique revient à l'argent et seulement à l'argent, ben, il va y avoir des riches, puis il va y avoir des pauvres, on va pouvoir faire à nouveau la révolution. Peut-être qu'ils rêvent dans l'immédiat, mais c'est comme ça que ces gens raisonnent. Et c'est là que vous voyez que c'est extraordinaire, c'est que les seuls qui soient en phase avec nos dirigeants, y compris dits de droite en France, en Suisse, en Suède, en Belgique, en Allemagne, les seuls qui soient en phase moralement au titre de la moralité publique avec nos dirigeants, et je dis bien y compris de droite, ce sont les trotskistes. Ce sont les agitateurs d'extrême-gauche. Trouvez-moi un cas où ce n'est pas vrai. Qui est-ce qui a, pardonnez-moi de prendre l'exemple français, qui est-ce qui a soutenu à fond la candidature de Jacques Chirac en 2002 contre Jean-Marie Le Pen et qui mobilisait la jeunesse comme en Corée du Nord, dans les rues de Paris, les collégiens, les lycéens, et y compris les tout petits des écoles? C'était les meneurs trotskistes. Et tout le monde était content. Les dirigeants étaient contents. Le diable, c'était Le Pen, c'était le nationalisme, c'était les discriminations, c'était la xénophobie. Et pourquoi moi je ne serais pas xénophobe? Je ne sais pas si j'aurais raison de l'être. Peut-être que j'aurais politiquement raison dans tel ou tel cas d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de l'être? Et non seulement je n'ai pas le droit de l'être, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de le dire, depuis des années. Mais maintenant, même quand je ne le dis pas, on va m'envoyer un juge. Mais demain, est-ce qu'on va me mettre des électrodes? Est-ce qu'on va vous mettre des électrodes avec une machine à détecteur de mensonges pour savoir si vous êtes d'une bonne conscience, si vous avez une conscience normale? On peut faire le parallèle de cette société profane qui est en train de se créer en théocratie en volant à la religion ce qui est son domaine. Car en matière de religion, les choses vont forcément de façon différente. Si vous prenez un aperçu théologique, par rapport à votre âme, par rapport à Dieu, les comptes que vous avez à rendre sont différents des comptes que vous avez à rendre à une société civile. Je m'explique. Contrairement à une infraction, un délit ou un crime, un péché peut être fait par intention. Par intention, par omission, et pas seulement par action. Par conséquent, un péché peut être constitué lorsque vous accomplissez n'importe quel acte, par exemple, acte ou omission dans votre vie, avec une intention qui correspond aux sept fameux vices capitaux. La luxure, là, tout ce que vous voulez, l'intempérance, l'avarice, ça va infecter tous vos actes, vos actions comme vos omissions. Mais ça, c'est votre rapport avec la religion. C'est votre rapport avec Dieu et votre intimité personnelle. Alors que maintenant, c'est la société civile qui vous ravit cet aspect des choses. Et c'est la société civile qui va vous demander des comptes sans laisser à votre libre arbitre faire quelque choix que ce soit. Et par conséquent, ils prennent la place de la religion, et donc de votre religion, de votre conscience. C'est maintenant la loi et le juge qui de plus en plus décident de ce que doit être votre conscience. Alors, comment une chose pareille a été possible? Une chose pareille vient d'un accident archaïque, du moins pour le juriste, d'un accident archaïque qui remonte à 1945 et dont il n'est pas bon de faire état. Tout cela est arrivé avec le débarquement, je peux le dire parce que je suis normand, ils m'ont loupé en 1944 parce que je suis né sous leur bombe. Mais enfin, le débarquement en Normandie, parce qu'à ce moment-là, nous avons vu les juristes américains venir, qui ont un droit, contrairement à la légende, terriblement archaïque et effroyable et barbare. Enfin, c'est mon avis. Et ces gens-là ont imposé le procès de Nuremberg. Et il faut savoir précisément, comme illustration d'ailleurs de ce que je viens de dire, que la particularité du procès de Nuremberg, ça n'est pas qu'on ait condamné des gens parce qu'ils avaient commis des meurtres ou tout ce que vous voulez, ce qui finalement est assez banal, serait assez banal. Pas du tout. Au procès de Nuremberg, on n'a pas condamné ceux des militaires et des hommes politiques qui, transgressant les lois, ont commis des crimes. Auquel cas, beaucoup d'Américains et de bombardiers anglais y seraient passés aussi. Non, on a condamné un certain nombre d'actes qu'on a qualifiés de crimes, mais la définition de ces crimes violait la conscience de ceux qui étaient visés, car ça n'était pas l'acte de tuer contrairement aux lois de la guerre, par exemple, qui étaient punies comme crimes de guerre, c'est d'avoir tué dans l'intention de faire triompher le Reich. C'est très différent. Alors vous avez crevé les yeux de cette dame avec l'intention de servir le Reich ou pas ? Ah non, 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 moi c'était pour prendre son sac à main. Ah, excusez-moi, passez votre chemin, je voulais pas vous déranger. Non, mais je caricature à peine. C'est quand même ce qui s'est passé, parce que, comme dit l'un de mes clients, qui est professeur et qui s'occupe beaucoup d'histoire, finalement, les guerres, il ne faut pas trop les moraliser du dedans, parce que celui qui la gagne, en général, c'est celui qui a tué le plus. C'est historique. C'est quand même, parce qu'après ça, on dit, oui, mais j'ai fait ça parce que c'était très bien, moi je pensais bien. On croit toujours qu'on pense bien. Mais, en revanche, là, nous avons vu apparaître en Europe ce que nous ne pratiquions pas, ce que nous refusions, c'est-à-dire la constitution d'un crime ou d'un délit qui implique dans sa définition, dans sa constitution juridique, la conscience, le cœur, l'âme de la personne poursuivie. Et par conséquent, c'est ce que j'appelle le viol des consciences par la société profane. Elle ne vous laisse plus aucun libre arbitre. Elle surveille votre âme. Et je dois dire que la chose avait été prévue. La chose avait été prévue par un étrange anarchiste clairvoyant et qui s'appelait George Orwell. Et George Orwell a écrit, entre autres, un roman qui paraît fantastique, mais qui en réalité est prophétique et qui s'appelait 1984. Or, dans ce 1984, il prévoit que les mécanismes psychologiques du péché et du contrôle de la conscience devaient échapper à Dieu, ou plutôt rester entre les mains de Dieu, mais Dieu étant l'État. Et c'est exactement le mécanisme qu'il démontre que l'on voit aujourd'hui. Dans son système, on mettait même des caméras chez les particuliers pour s'assurer que les actes de la vie quotidienne ne dénotaient pas une non-conformité de leur conscience au système. Alors encore une fois, dans un système politique, dans un système social, par opposition, il doit y avoir une séparation avec le système de la religion, il doit y avoir une différence, c'est-à-dire que la conscience ne peut appartenir qu'à vous ou à Dieu. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. En revanche, votre conscience ne doit pas appartenir à l'État, aux juges, aux fonctionnaires, à la Ligue des droits de l'homme et à je ne sais qui d'autre. Votre conscience doit rester libre vis-à-vis de la société profane. Or, ça n'est plus le cas, précisément. Et malheureusement, je vois peu de gens se rebeller contre cette situation nouvelle terrifiante, car c'est une terreur morale extraordinaire. Encore une fois, précédemment, on ne vous jugeait jamais sur vos arrière-pensées, on ne vous jugeait pas sur les mobiles. Bien sûr, lorsque vous arrivez devant un juge, vous arriviez dans le système malheureusement déjà ancien, enfin quand on ne violait pas votre conscience, ou lorsque c'est un domaine où il n'y a pas de discrimination, le juge va tenir compte de votre moralité, mais il ne va pas s'immiscer dans votre conscience, je veux dire par là, lorsque quelqu'un aura tué. On s'intéressera à voir s'il a eu une vie honnête ou si c'est une fripouille. Mais ça ne fait pas partie de la constitution de l'infraction. C'est simplement que quand il y a une infraction, la loi prévoit un maximum et un minimum. Et que le juge, comme disait Hegel, dispose là d'un espace de grâce. Donc il peut donner plus, il peut donner moins. Mais encore une fois, l'infraction elle-même, dans sa définition, n'impliquez pas dans nos systèmes civilisés européens, romano-germaniques, n'impliquez pas la conscience de celui qui avait accompli un acte. Aujourd'hui, si vous êtes surveillé comme l'avait annoncé George Orwell, nous sommes tous en danger. En danger en sachant que c'est une nouvelle religion puisqu'elle prétend maîtriser nos consciences et qu'elle cherchera fatalement à prendre la place des autres. Sauf peut-être, mais ça c'est un avis personnel, en Europe, la place de l'islam.
parce que il y a un état de grâce, si j'ose dire, au profit de l'islam. C'est l'exotique, et puis ça permet d'infiltrer des gens qui vont casser le système ancien que ces gens-là détestent, le système traditionnel, c'est-à-dire vous et moi, grosso modo, hein, pour être simple. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur ce viol des consciences dont nous sommes tous victimes en Europe. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, il est très important d'en prendre conscience, parce qu'actuellement, on en parle guère. Pourquoi en parle-t-on guère ? Puisque précisément, à travers les médias, à travers les juges, à travers les hommes politiques, à travers le conformisme ambiant, cette énorme chape, eh bien non seulement beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce système, mais ont peur de le dénoncer, puisqu'on a réussi à faire croire que les vices capitaux étaient d'ordre profane, et qu'il n'y en avait d'ailleurs qu'un seul, et que c'était les discriminations. Eh bien, je vous recommande d'essayer de vous révolter contre un tel système, d'abord à titre personnel d'y résister, et puis d'en parler quand vous le pourrez autour de vous, et puis de petit à petit, peut-être qu'on pourra lever l'étendard de la révolte, j'en serai, l'étendard de la révolte, pour dire, après tout, j'ai le droit à mon arbitraire intime, j'ai pas à justifier si je suis raciste ou pas, et puis, après tout, l'égalitarisme nouveau des plutocrates et des trotskistes, eh bien, ça n'est pas ma philosophie. Et quand je suis menacé chez moi, et je vous recommande pour quand vous êtes menacé chez vous, eh bien, ne serait-ce qu'à titre politique et de nécessité, eh bien, soyons, quand il le faut, xénophobes. Et puis voilà. Et c'est ce que je crois utile aujourd'hui par rapport à une certaine immigration extra-européenne. Et c'est ce qu'on veut nous interdire. Alors ce soir, je dis que je suis xénophobe, je l'ai déjà dit, j'ai même été condamné une fois en France. Alors c'est pour vous dire qu'il faut vous révolter, il faut que vous sachiez que si vous ne vous révoltez pas, à part vous-même et puis autour de vous, et puis plus tard en faisant pression sur les hommes politiques quand ce sera possible, ou sur les médias quand ce sera possible, il n'y aura plus que cette chape d'égalitarisme, il n'y aura plus que cette religion mondialiste et profane, et vous n'aurez plus aucune liberté, si ce n'est les libertés hédonistes que l'on nous donne, vous aurez la télé en couleur, et taisez-vous. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce soir, étant entendu qu'avec la permission de M. Franzé, si certains d'entre vous veulent poser des questions, pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient. Et sans petit papier en direct, c'est toujours plus spontané.
Très bien. Je tiens à vous remercier vivement pour ce brillant exposé. Je constate que François Brignot ne s'est pas trompé lorsqu'il a décrit votre personnalité. Je constate aussi que je dois constater que la législation française est encore plus détaillée que la nôtre, même si la nôtre, dans un certain sens, est même plus sévère, puisque notre loi punit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement de délit de racisme. Mais c'est qu'on dit quand la France a le rhume, la Suisse éternue. Donc on peut bien craindre qu'un jour nous trouvions dans une situation semblable. J'ai aussi constaté que c'est nos pays qui se disent des démocratiques sont devenus aussi totalitaires que les systèmes d'ancien régime. Comme le disait Tsinoviev, l'Occident est devenu plus totalitaire encore que les régimes soviétiques, mais sous des apparences dites démocratiques. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Des questions à poser. Monsieur Honecker.
Est-ce que vous pouvez nous parler, maître, d'un phénomène qui va toucher la Suisse, qui touche en fait sournoisement la Suisse, mais dont je crois la plus grande partie de nos concitoyens, compatriotes, n'est pas conscient, et qui s'appelle la lycratisation d'un pays, en particulier la lycratisation de la France. Et ensuite, nous expliquer comment, dans un pays comme la France, qui est un pays où la séparation de l'Église et de l'État a été entérinée, si je le dis bien, en 1905, on trouve un primat des Gaules pour décorer de la Légion d'honneur, maître Alain Jakubowicz, président de la LICRA et juif de son État.
Alors, la première question, c'est la lycratisation. Bon, vous avez, je ne sais pas si ça s'appelle lycra chez vous, peut-être que si, aussi, oui. Ben, nous avons, malheureusement, ça nous afflige depuis longtemps. Alors, c'est extrêmement grave parce que une association comme la lycra et bien d'autres, par la législation française, mais je ne sais pas exactement où ça en est chez vous, mais si ce n'est pas fait, ça sera fait. C'est-à-dire qu'elles ont le droit d'enclencher les poursuites. Et s'il y a des poursuites, de se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts. Alors d'abord, c'est l'institutionnalisation, ce que nous n'avions pas sous nos cieux, de la délation. C'est-à-dire, je te dénonce et je touche. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais comme c'est au nom d'une morale supérieure, c'est accepté. Mais il est évident que c'est un système absolument odieux et que précédemment, dans nos pays, on était poursuivi par une victime et non pas par une victime réelle, par celle que, en matière de presse, celle qu'on avait désignée en la diffamant, par exemple. Et elle seule pouvait agir. S'il y avait un vol, c'était la victime du vol seule qui pouvait agir et obtenir, à juste titre d'ailleurs, des dommages et intérêts. Or, aujourd'hui, on obtient des dommages et intérêts parce que leur moralité intime a été offusquée. Or, il faut savoir que c'est utiliser un système qui existait très souvent dans les pays européens, mais qui ne dérangeait pas, en général. Ils ont pris tout le système des bonnes mœurs, de protection des bonnes mœurs, car il y avait des ligues de vertu, comme on disait, qui pouvaient poursuivre en matière de bonnes mœurs. Ils ont pris tout le système de protection des bonnes mœurs, car aujourd'hui, les bonnes mœurs, ça n'est pas mettre les enfants à l'abri de la pornographie. Non, les bonnes mœurs, aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il fait bisous au petit nègre qui est à côté de lui à l'école. Eh oui, c'est quand même ça, aujourd'hui, les bonnes mœurs. Et par conséquent, vous avez le système des bonnes mœurs qui fonctionne puisqu'il s'agit toujours de morale. Mais ce n'est plus la même morale qui fonctionne. Et alors c'est très dangereux parce que, précisément, et je prends l'exemple français, mais encore une fois, vous transposerez sans peine chez vous, nous avons une législation sur l'outrage aux bonnes mœurs qui fait exception par rapport aux lois habituelles en matière pénale dans la mesure où il n'y a pas d'interprétation véritablement stricte, puisqu'on peut définir un vol, on peut définir un meurtre matériellement, mais qu'on ne peut pas définir un outrage aux bonnes mœurs dans la mesure où ça peut varier en temps et en lieu. Et par conséquent, on donnait là, exceptionnellement, par dérogation, une vaste latitude au juge. Et cette vaste latitude au juge, maintenant, il l'a, non plus d'ailleurs dans ce domaine-là, c'est à peu près fini, mais il l'a dans le domaine de la discrimination. Par exemple, en France, mais c'est assez proche de votre 261 bis, mais nous avons provocation à la haine raciale. Bon, pourquoi on m'interdirait de provoquer à la haine? C'est peut-être pas un beau sentiment, mais en matière de sentiment, encore une fois, c'est pas à l'État de me donner des commandements. Hein? Eh bien, provocation à la haine, j'ai essayé en vain jusqu'à présent d'invoquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en disant « mais il n'y a pas d'interprétation stricte possible ». Et c'est vrai, puisque qu'est-ce que ça veut dire que provoquer à la haine? À l'heure actuelle, le système politique, pour des raisons purement idéologiques, dit que lorsque vous vous en prenez par écrit à quelqu'un d'origine extra-européenne et que vous dites que c'est un vilain filou, en disant son ethnie, vous provoquez à la haine raciale. Mais on pourrait, sans modifier cette loi, parce qu'encore une fois, elle est d'interprétation floue, nécessairement flou comme définition, on pourrait très bien inverser l'idéologie et dire, puisque vous avez fait une déclaration en faveur de l'immigration, vous provoquez à la haine parce que c'est l'immigration qui cause des problèmes dans notre pays. Eh oui, on pourrait. C'est pour dire que ce sont des lois absurdes, mais qui fonctionnent en fonction d'une idéologie, et des associations comme la LICRA sont relais, si vous voulez, puissamment les dirigeants politiques, ont un gros pouvoir médiatique et font partie de la terreur. C'est la terreur, parce qu'il faut savoir que lorsque François Brignot a été poursuivi plusieurs fois, ce sont essentiellement
ces associations qui ont fait monter l'addition en termes de dommages et intérêts pour ruiner les opposants. Et c'est ce qui se passe maintenant. Vous pouvez avoir, parfois on a récemment en France, des cas de dommages et intérêts donnés à des associations qui vont beaucoup plus haut que les amendes publiquement possibles et qui peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros. Alors, quand vous avez un brave journaliste ou un brave militant politique qui n'est pas spécialement fortuné à qui on met une addition de 300 000 euros, vous imaginez comment sera sa vie peut-être jusqu'à sa fin. Et par conséquent, nous avons ce système de délation. Effectivement, vous avez raison, monsieur, de soulever cette question, parce que ça se généralise en Europe. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment un maître d'œuvre, mais enfin, grosso modo, tous les pays du Conseil de l'Europe sont dans, un peu plus, un peu moins, mais dans le même cas.
Les gouvernements financent ces entreprises.
Ah ben, les gouvernements, en tout cas chez nous, il y a des grosses subventions par les collectivités publiques, oui, tout à fait.
Oui, il y a d'autres questions. Oui.
Juste une donnée concrète à propos de ce qui a été dit sur la litratisation. En Suisse, elle a commencé par le canton suisse qui est toujours à l'avant-garde de la décadence et qui est à l'avant-garde de la décadence parce qu'il est enclavé dans la France, à savoir le canton de Genève. Mmh. En effet, nous avons un système dans lequel, pour l'instant, chaque canton a encore son code de procédure pénale. Et un seul canton, sur donc 26 codes de procédure pénale, vous en avez un seul qui prévoit la possibilité pour les associations antiracistes de se porter partie civile au nom de l'article 261 bis, c'est le code de procédure pénale du canton de Genève. Cette loi, cette modification du code de procédure pénale a été votée à l'initiative d'une personne bien précise, qui est maître Philippe Grumbach, enfin pardon, Grumbach, dont il est inutile de dire de quelle confession il est, dont il est inutile de préciser quels appuis financiers il avait, et qui se trouve être, comme par hasard, le président de la LUCRA à Genève. On n'est jamais nous servi par soi-même, naturellement. Alors, Dieu merci, en Suisse, nous avons quand même les Suisses allemands. Alors, d'ici quelques années, on n'aura plus le code de procédure pénale contre nous, on aura un code de procédure pénale fédéral unifié. Et devant le Parlement fédéral, l'idée d'étendre le droit de porter partie civile aux associations libres et racistes a été rejetée, parce que Dieu merci, il y a 75% de députés suisses-allemands au Conseil national.
Probablement avez-vous la chance de ne pas être encore dans l'Union européenne. Car il y a une pression dans ce sens. Ça touche tous les pays du Conseil de l'Europe, mais la pression à l'intérieur des institutions de l'Union européenne, spécialement à Bruxelles, est extrêmement forte. Et on le sait parce que on les voit fonctionner. Et vous savez que grâce à la France et à la Hollande, une tentative de constitution de l'Union européenne a été rejetée. Or, si je mentionne la chose, c'est qu'il y avait un chapitre entier, alors que normalement on aurait dû dans une constitution définir les institutions, qui vote quand, pour combien d'années. Non, il y avait un chapitre entier de lutte contre les discriminations.
Il y a d'autres questions ? Monsieur Chappa.
Tout à l'heure, vous avez invoqué le procès de Nuremberg. Et en préambule, Maître Franzen nous a parlé de frère, maître Vergès, qui me fait penser au procès du capitaine Klaus Barbie. Si on lit la plaidoirie de maître Vergès, évidemment, bon, c'est son son de cloche, naturellement, mais c'est assez bien présenté, d'une manière, on pourrait dire, crédible pour celui qui est pour le profane, en tout cas qui lit ça. L'État français aurait, du début pratiquement à la fin, violer le droit, et les parties civiles commis des forfaitures les unes après les autres. Vous-même, qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est exact. C'est tout à fait exact, puisque nous avons, pour le procès Barbie, procédé d'une façon particulièrement ignoble, est-ce qualité d'État, n'est-ce pas ? De façon particulièrement ignoble, puisque n'ayant pas la possibilité, psychologiquement, à cause des juristes français, de faire une loi rétroactive, ce qui aurait hérissé le poil de tout le monde, on a prétendu que le statut de Londres du 8 août 1945
était de droit positif et appliqué en France, applicable en France, et que donc les infractions définies pour le tribunal de Nuremberg étaient applicables. Ce qui était, pour des raisons que je ne peux pas expliciter ici, dans lequel, que j'ai explicité dans un livre, qui s'appelle « Le théâtre de Satan », si vous voulez, une façon d'appliquer, mal d'ailleurs, mais d'appliquer le droit américain, donc le droit coutumier en France. En réalité, Barbie a été condamné alors qu'il n'y avait aucune loi française qui permettait de le condamner. Il a été condamné par un véritable droit coutumier, ce qui est le renversement total de notre droit à nous tous commun romano-germanique. On a fait des lois ensuite, mais on ne pouvait pas les faire rétroactives. Et par conséquent, effectivement, de la forfaiture d'un bout à l'autre. Ça, c'est incontestable. Il ne pouvait pas être puni parce que c'était trop tard. Et non seulement, le statut du tribunal militaire international qui est intégré à l'accord de Londres de 1945... Ne prévoyait pas qu'il serait applicable en dehors de des procès de Nuremberg, qu'il ne serait pas applicable dans les pays qu'il avait signés. Et non seulement ça ne pouvait pas être applicable dans les pays qu'il avait signés, il faut savoir que ça n'est pas un traité, parce que les États qui ont signé l'ont signé par des signatures de gouvernement sans ratification. Pour la bonne raison que le Sénat américain refuserait la ratification. Par conséquent, c'est ce qu'on appelle un simple accord de gouvernement, une simple convention de gouvernement. Une convention de gouvernement ne peut pas créer une loi pénale. Un traité, oui, parce que le traité a valeur de loi. Mais une convention ne peut pas le faire. J'ajouterais qu'à supposer qu'une convention de gouvernement ait pu créer une loi pénale dans un pays particulier, ayant participé à cette convention telle que la France, dans ce cas-là, il fallait respecter l'accord de Londres et qui prévoyait que l'on ne pouvait condamner que les grands dirigeants du Troisième Reich dont les crimes avaient été commis sans définition de lieu géographique. Or, on a condamné Klaus Barbie non pas pour des crimes qui auraient été commis depuis Berlin, en Tchéquie, au Danemark, de façon non localisable, mais pour des crimes commis à Lyon. Par conséquent, de toute façon, même si ça avait été applicable et ça ne l'était pas, on avait violé le texte de la loi. On a changé toutes les définitions et effectivement, la Cour de cassation française, à cette occasion, il faut bien le reconnaître, parce que par ailleurs, techniquement, elle est souvent bonne, s'est déshonorée.
Ça peut aussi dire que c'est la même chose pour le cas de Papon.
Alors ensuite, c'est le premier pas, c'est le premier crime qui est le plus difficile. Ensuite, une fois que vous savez tuer et que vous n'avez plus peur du sang, vous continuez, je veux dire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Qui serait fondé actuellement à poursuivre George Bush au titre de crime contre la paix, qui est amplement prouvé par les
En bon juriste, les juridictions américaines.
Seulement ?
Oui, parce qu'on a prévu à Nuremberg précisément que ça ne serait pas une règle applicable. Alors il y a bien un tribunal pénal international qui a été créé, mais par les États qui l'ont ratifié et les États-Unis ne l'ont pas ratifié.
La Belgique.
Ah oui, non, mais presque tous les pays européens l'ont ratifié. Condamner nos soldats, on leur a donné des ordres, mais ils seront condamnés. Mais les Américains ne sont pas idiots d'ailleurs. Un pays qui a des vues impérialistes, et c'est quand même leur cas, n'a pas intérêt à taper sur ses soldats. Par conséquent, vous voyez comment ils escamotent leurs crimes en Irak. Mais d'un autre côté, je veux dire, est-ce que c'est pas inévitable ? Si vous envoyez des gens au casse-pipe, il faut qu'ils aient... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il est normal qu'il y ait des débordements qui ne soient pas acceptés et qu'ils le sachent. Mais vous ne pouvez pas leur annoncer que n'importe quel juge du Béloutchistan oriental pourra lui demander des comptes. C'est pas bon pour le moral du militaire.
Vous pensez de la Cour pénale internationale de Madame Del Ponte ?
Le plus grand mal. Le plus grand mal, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'il peut y avoir des accords internationaux, il peut y avoir des traités internationaux. Je trouve très bien, par exemple, qu'il y ait des accords d'extradition pour mettre fin aux crimes, j'entends, de droit commun, au trafic de drogue, aux vols internationaux, aux recels, tout ce que vous voulez. Mais j'estime que le droit ne peut fonctionner que dans une dans une, à l'intérieur d'une définition souveraine. C'est-à-dire que les États ou les fédérations d'États, ça sera peut-être un jour le cas de l'Union européenne, c'est pas très bien parti, mais pourquoi pas, c'est le cas pour vous, puisque vous êtes quand même une fédération, en fait, enfin en droit. Seuls les États et les fédérations, pour moi, ont la souveraineté. Et par conséquent, historiquement, eux seuls ont le droit d'avoir des juges et de punir. À partir du moment où vous quittez une souveraineté, la France, l'Europe, la Suisse, la Confédération, à partir du moment où vous quittez une souveraineté, une nation définie, vous allez dans les pires ennuis et vous allez aller vers une dictature internationale, mondialiste, dans laquelle il n'y aura que des injustices, car ça ne sera jamais que la loi du plus fort. Ça sera la loi du plus fort, puisque c'est Saddam Hussein qui sera condamné et pas Bush. C'est aussi une réponse à votre question de tout à l'heure. Mais c'est évident, à Nuremberg, qui en a condamné les vaincus, alors qu'on sait très bien que les responsables de Dresde auraient dû passer en jugement. Peut-être qu'ils auraient dû passer en Angleterre, c'est au moins ma théorie, mais ils auraient dû passer en jugement. Eh bien non, c'est toujours pour les vaincus que ça jouera. Et puis moi, je vais vous dire au sujet de Carla Del Ponte et de ses juges. Comment peut-on juger, je prends un cas qui a été celui de Milosevic, qui a priori pas un de mes copains, il était secrétaire d'État quand ils m'ont jeté du Yougoslavie. Bon. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de voir que des Anglais, et je crois même qu'il y a un Africain, vont prenez simplement un juge anglais, très fier d'être un juge anglais, il est de civilisation britannique, il est chrétien anglican, il n'a aucun rapport avec la Yougoslavie, il ne parle pas serbo-croate, et vous croyez qu'il va pouvoir juger un homme de civilisation orthodoxe slave, élevé dans le communisme, et qui a fait une guerre dans laquelle il n'a peut-être pas fait plus de morts, enfin en tout cas proportionnellement que les Anglais à certaines époques. Comment voulez-vous que cet Anglais puisse juger ce Yougoslave? Ce serait pareil dans l'autre sens, sans qu'on aille forcément à la pleine injustice, et où au bout du compte, il y aura des rancœurs où chacun se dira, ben, si vous êtes le plus puissant, pour l'instant c'est l'OTAN qui a le plus de chars et plus d'avions, si vous êtes le plus puissant, vous pouvez condamner. En fait, c'est extrêmement grave parce que c'est la fin, et je pèse mes mots, de la civilisation, de la guerre que nous avons connue depuis le traité de Westphalie en 1648. Vous savez qu'il y avait eu la guerre de 30 ans, qu'il y avait eu une guerre abominable qui a fait disparaître peut-être les deux tiers de la population civile allemande à l'époque. Et les souverains européens, lorsqu'ils ont fait un traité, qui a été le traité de Westphalie, ont dit « plus jamais on ne pourra faire des choses comme ça ». Et ça a été la naissance, et Genève y a joué un rôle comme La Haye, ça a été la naissance des règles de la guerre, qui reprenait d'ailleurs ce que l'Église avait créé au Moyen-Âge avec la trêve de Dieu. C'est-à-dire imposer des règles dont le but essentiel est, premièrement, on ne touche pas à la population civile. Deuxièmement, un soldat désarmé doit être considéré comme un prisonnier et un être humain. Or, c'est bien fini. Je veux dire que Guantanamo vous montre que ça ne choque plus. Bon, il y a des gens qui protestent, mais ça ne choque plus personne. Je veux dire, ce n'est pas en première page de votre journal.
50 questions, oui.
Juste une chose concernant ce tribunal pénal international qu'on a invoqué. Il paraît que, bon, il est financé également par des fonds privés.
Oui, c'est exact.
Les gens des pétroles.
Oui, c'est exact.
Les créateurs sont brosses.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et ça, là, apparemment, ça choque. Ça ne se dit pas trop,
hein.
Ça ne choque personne.
Non, ça ne choque. Mais c'est cette chape terrible, c'est vrai, c'est exact.
Et on peut dire, en une certaine mesure, qui paye tout le monde.
Bah oui.
C'est ça une plutocratie.
Bah bien sûr. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Oui, c'est la plutocratie, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que j'avais dit le mot tout à l'heure. Je vous remercie.
crois que l'heure avance. Encore une question.
Un de vos clients, maître abominablement persécuté, très courageux, a démontré qu'à Nuremberg, le pire croque-mitaine de Nuremberg, qui s'appelait Julius Streicher, n'avait pas de sang sur les mains.
Tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc, c'est un cas typique de procès.
Ah ben non, de toute façon, on pense ce qu'on veut des idées de Streicher, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été condamné par des Américains en partie, puisqu'il y avait quand même les juges américains qui étaient les maîtres d'œuvre avec Jackson. Il faut savoir qu'il a été condamné pour crime d'opinion, alors que chez les Américains, ça n'existe pas, même pas le délit d'opinion. Parce qu'effectivement, il a participé pendant la guerre à aucun acte, ni de persécution, ni de guerre. Il avait un journal et il a pris des mesures dont aucune n'était d'ordre militaire, de toute façon.
Comme Rosenberg.
Ah oui, c'était l'intellectuel. Mais non, Rosenberg a eu des fonctions, à l'Est comme un peu plus que, enfin, comme gouverneur.
On va en rester là parce que l'heure avance. Voilà, l'apéritif, on pourra continuer à discuter au cours de l'apéritif.
Bien sûr, repas. Bien sûr. Merci très volontiers, je vous en prie.